Vous écoutez, on lit pour vous.
1907, le premier lien entre Québec et la rive sud s'effondre. Un texte de Marc Tison, paru le 14 septembre 2025 dans la presse. Avant d'être et de demeurer le plus long pont cantilever au monde, le pont de Québec s'est effondré deux fois en cours de construction. L'ingénieur américain Theodore Cooper était le principal responsable de la première catastrophe. Le fracas s'est fait entendre à des kilomètres à la ronde. Ses échos ont résonné aux confins de la planète. Le 29 août 1907, le pont de Québec en construction s'effondre, pour la première fois. Sur les 117 ouvriers qui travaillent autour de la structure sud au moment du drame, 76 périssent, dont 33 Mohawks de Kanawake. La plus jeune victime, Stanley Wilson de Saint-Romuald, n'a que 14 ans. Parmi les morts, on signale John McNaughton et Phileas Couture, le mécanicien et le chauffeur de la locomotive qui apportait un chargement de pièces d'acier aux ouvriers et qui a piqué du nez dans le fleuve. Plus heureux, D.B. Harley, qui travaillait à l'extrémité de la structure, se rappellera s'être soudainement senti tomber dans le vide.
« J'ai réalisé que l'acier tombait plus vite que moi. Je me suis ensuite retrouvé profondément enfoncé dans l'eau. »
Revenu à la surface, il s'est agrippé à une planche qui flottait, pour être secouru 20 minutes plus tard par une embarcation venant de la rive nord, relate William D. Middleton dans son livre « The Bridge at Québec ». C'était notre Titanic à nous, 5 ans avant la tragédie maritime. « Grand désastre national », a titré la presse le lendemain. La plus longue travée au monde. Le nouveau pont promettait de battre le record de la plus longue portée au monde détenue depuis 1890 par le pont de l'estuaire Firth of Forth en Écosse, qui se distinguait autant par sa difficile prononciation que par ses deux travées principales, faisant chacune de 521 mètres de long. Le pont de Québec allait mettre à profit la même construction en porte-à-faux ou cantilevé pour atteindre une portée de 549 mètres entre ces deux points d'appui. Bref, fierté. Le principe, à proximité de chaque rive, une structure métallique triangulée allonge deux bras de longueur similaire, l'un ancré au sol et l'autre en porte-à-faux, de part et d'autre d'une solide pile en appui sur le sous-sol rocheux. Au bout de leurs bras en porte-à-faux, les deux structures riveraines supportent une poutre centrale suspendue au milieu du fleuve. La construction est gérée par la Compagnie du Pont de Québec, constituée en 1887. L'ingénieur en chef de la société, Edward O'Hare, n'a jamais travaillé sur un pont d'une portée supérieure à 90 mètres. La direction demande donc à un ingénieur consultant réputé de New York, Theodore Cooper, de recommander le meilleur projet parmi les soumissionnaires, en portant une attention particulière à celui de la société Phoenix Bridge de Phoenixville, en Pennsylvanie, qui se signale par la légèreté de son coût et de sa superstructure. Rendu le 23 juin 1899, son rapport conclut que le projet de la Phoenix est « le meilleur au meilleur prix », raconte l'auteur Michel Lébreu dans son livre « Le pont de Québec ». Quelques mois plus tard, Cooper est engagé comme consultant pour diriger l'ensemble du projet. À peine nommé, il modifie le concept initial pour rapprocher les deux piles des rives en eau moins profonde. La décision est bien fondée, mais, comme par hasard, elle fait passer la portée de 487 à 549 mètres, ce qui associera le nom de Cooper à la plus longue travée au monde. L'érection de la superstructure est entreprise en juillet 1905 par la Phoenix Bridge. Écart inquiétant. Âgé de 60 ans, quand il a accepté le mandat, Theodore Cooper est en mauvaise santé et ne se rendra jamais sur le site durant la construction. Pendant qu'il demeure à New York, un jeune ingénieur, Norman McClure, le représente sur le chantier. La construction va bon train jusqu'à la mi-juin 1907, quand un écart de 1,6 mm est observé dans l'aboutement de deux membrures. McClure rapporte le problème à Cooper, qui lui répond « Ce n'est pas grave ». Comme le relate William D. Middleton dans son ouvrage « Bridge at Québec », d'autres écarts sont détectés pendant l'été et signalés à Theodore Cooper dès leur apparition. À la mi-août, Cooper demande par télégramme une explication à la Phoenix Bridge. L'ingénieur en chef de l'entreprise avance que les déformations des membrures remontent probablement à leur fabrication en usine. Theodore Cooper semble désemparé. Aucune des explications pour la membrure déformée ne passe l'épreuve de la logique, écrit-il à McClure. J'ai élaboré une autre théorie qui est possible, sinon probable. Les membrures ont été heurtées par les poutres suspendues utilisées pendant le montage, alors qu'elles étaient mises en place ou démontées. Vérifiez si vous ne trouvez pas de preuves du choc. McClure n'en trouve aucune. Le 27 août, alors que le fléchissement sur une des membrures principales s'est accru à 57 mm, un contremaître de la Phoenix Bridge demande l'interruption des travaux. Le lendemain, McClure se rend à New York pour discuter du problème avec Cooper. Le même jour, le contremaître relance la construction, conforté par l'ingénieur principal de la compagnie du pont de Québec, Edward O'Hare. Le 29 août, après une courte rencontre avec McClure, Cooper envoie un câble urgent au siège social de la Phoenix Bridge. N'ajoutez aucune charge au pont avant d'avoir dûment examiné les faits, lui enjoint-il, sans savoir que les travaux ont repris entre-temps. McClure sera chez vous à 5 heures. McClure arrive à Phoenixville vers 17h15. Les ingénieurs réunis en urgence décident de reporter leur décision finale au lendemain matin, mais il est déjà trop tard. À 17h30, la structure sud, qui se projetait en porte-à-faux sur 220 mètres au-delà de sa pile, se déforme, se recroqueville, puis s'effondre en 15 secondes. Un rapport d'enquête accablant. À peine 3 jours plus tard, une commission royale d'enquête est instituée, formée de 3 ingénieurs civils réputés. Le rapport de plus de 200 pages est déposé le 20 février 1908. La défectuosité des membrures fautives était due à un vice dans le tracé des plans, lit-on dans la version française du document. Ces plans étaient l'œuvre de Peter L. Zlapka, ingénieur concepteur en chef de la Phoenix Bridge Company. Mais le tracé a été révisé et officiellement approuvé par M. Theodore Cooper, écrivent les commissaires. La rupture ne peut être directement attribuée à d'autres causes qu'à une erreur de jugement de la part de l'un et l'autre de ces ingénieurs. Dans son édition du 16 novembre 1911, le journal Engineering News comparait le dessin du pont du Firth of Forth en haut, le funeste projet de la Phoenix Bridge pour Québec, juste en dessous, puis la recommandation non réalisée d'une commission d'ingénieurs et, en bas, le concept finalement retenu de la St. Lawrence Bridge Company, complété en 1917. Non seulement Zlapka avait sous-estimé le poids propre de la structure, mais ses calculs n'avaient pas tenu compte de l'allongement de la travée principale par Cooper. Quand l'erreur a été constatée, Cooper a tranché que malgré l'accroissement de la charge, la marge de sécurité sur les membrures critiques était encore suffisante, ce qui évitait de reprendre la construction à zéro. Seconde catastrophe. Le projet est repris en main par le gouvernement du Canada, qui retient la proposition de la société montréalaise St. Lawrence Bridge. L'érection d'une superstructure plus costaude débute en août 1913. Trois ans plus tard, le 11 septembre 1916, il ne reste qu'à lever et fixer le segment central, remorqué au milieu du fleuve sur 6 barges. Et c'est une autre tragédie. Une pièce de l'appareil de levage se rompt et l'énorme poutre retombe dans le fleuve, entraînant dans la mort 13 des quelques 80 ouvriers. L'année suivante, le 17 septembre 1917, une nouvelle poutre est hissée sans encombre. Le pont ouvre à la circulation ferroviaire le 3 décembre suivant. Le premier lien tient bon depuis lors. Et Theodore Cooper? Brisé comme son pont, il a pris sa retraite après la catastrophe et s'est éteint dans la solitude le 24 août 1919, 2 jours après l'inauguration officielle du nouvel ouvrage par le prince de Galles. C'était 1907, le premier lien entre Québec et la rive sud s'effondre. Un texte de Marc Tison, paru le 14 septembre 2025 dans la presse.
L'eau comme mythe fondateur, mais dans l'ombre de la colonisation. Un texte d'Ophélie Doirot, paru le 27 septembre 2023 dans La Liberté au Manitoba. L'histoire de la création de l'île de la Tortue, telle que racontée par plusieurs communautés autochtones d'Amérique du Nord, repose sur l'eau. Chaque version de ce mythe est unique, mais toutes partagent une essence commune qui puise sa source dans la profonde relation entre les autochtones et l'eau. Le créateur, une grande inondation et le rôle central de Nanabouche se superposent dans un univers riche de spiritualité. Cependant, l'ombre de la colonisation menace la préservation de ces précieuses traditions. Des auteurs autochtones ont contribué à maintenir vivante cette culture ancestrale malgré les défis, et des initiatives actuelles visent à revitaliser ces récits pour les générations futures. Il faut reconnaître que chaque communauté autochtone est unique, et donc chaque histoire de la création l'est tout autant. Les versions varient, mais l'essence reste la même. Les autochtones appellent l'Amérique du Nord l'île de la Tortue. Voici l'un des récits sur la création de l'île de la Tortue. Le créateur a placé les Anishinabés sur la terre. Au fil du temps, les premiers habitants ont commencé à se battre les uns contre les autres. Le Créateur décida de purifier la terre et envoya une grande inondation. Seul un filou, Nanabozo ou Nanabouche, suivant les récits, et quelques animaux sont restés. Nanabouche demanda aux animaux de recueillir de la terre à de grandes profondeurs sous l'eau pour recréer le monde, est-il expliqué dans l'Encyclopédie canadienne. Plusieurs écrivains se sont également intéressés à ce mythe, dont Basil Johnston, auteur Anishinabé, originaire de la Première Nation de Wasuxing, dans son livre « Ojibwe Héritage, 1976 ». Il écrit, note de la rédaction Traduction libre, avec joie, tous les animaux essayèrent de servir la femme esprit. Le castor fut le premier à plonger dans les profondeurs. Il remonta bientôt à la surface, essoufflé et sans le précieux sol. Le pêcheur essaya, mais lui aussi échoua. La martre descendit et revint les mains vides, déclarant que l'eau était trop profonde. Le huard essaya. Bien qu'il soit resté longtemps hors de vue, il ressort, lui aussi, essoufflé. Il dit qu'il faisait trop sombre. Tous essayèrent de répondre à la demande des femmes spirituelles. Tous échouèrent. Tous eurent honte. Finalement, le plus petit des animaux aquatiques, le rat musqué, se porta volontaire pour plonger. À cette annonce, les autres créatures aquatiques rirent de mépris, car elles doutaient de la force et de l'endurance de cette petite créature. N'avaient-ils pas été incapables, eux qui étaient forts et habiles, de saisir la terre du fond de la mer? Comment lui, le ramusqué, le plus humble d'entre eux, pouvait-il réussir alors qu'eux n'y parvenaient pas? Néanmoins, le petit ramusqué se porta volontaire pour plonger. Sans se décourager, il disparut dans les vagues. Les spectateurs sourirent. Ils attendaient que le ramusqué ressorte aussi bredouille qu'eux. Le temps passa. Les sourires se transformèrent en froncements de sourcils inquiets. Le petit espoir que chacun avait nourri pour le succès du ramusqué se transforma en désespoir. Lorsque les créatures qui attendaient eurent abandonné tout espoir, le ramusqué remonta à la surface, plus mort que vivant, mais il tenait dans ses pattes un petit morceau de terre. Une relation particulière. C'est donc ce mythe qui a fondé plusieurs croyances chez les Autochtones et qui a forgé cette relation à l'eau, comme l'explique Negan Sinclair, professeur de langues autochtones à l'Université du Manitoba. Notre histoire de création parle de notre relation avec l'eau, autant si pas plus que notre relation avec la terre. L'eau est l'origine de la vie. Un point que souligne également Carol McBride, présidente de l'Association canadienne des femmes autochtones. Originaire de la Première Nation Anishinaabe de Témiscamingue, elle explique « L'eau est le point de départ de la création. Regardez les femmes qui portent leur bébé. Ils sont entourés d'eau dans le corps des femmes. » C'est pourquoi le mythe de la création repose sur l'eau et les femmes. C'est aussi ce qu'a pu observer Bernadette Rigal-Sellard, professeure émérite en études nord-américaines et sciences des religions et sociétés à l'Université Bordeaux-Montaigne. Le mythe veut qu'on sorte tous de l'eau dans l'utérus de nos mères et les animaux de l'eau des lacs. Il faut remarquer que beaucoup des Premières Nations au Canada sont entourées d'eau, donc l'eau est forcément première dans leur vie. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les mythes des Autochtones des États-Unis, comme les Pueblos. Une observation que confirme Carol McBride. Nous sommes entourés d'eau partout autour de nous. Nous l'avons toujours été. Un risque de perte. Pourtant, avec l'arrivée des colons sur l'île de la Tortue, ce mythe de création s'est certainement perdu à force de tentatives d'assimilation, comme l'explique Bernadette Rigal-Sellard. Durant les premiers temps de la colonisation, évidemment, les missionnaires ont essayé de démolir tous les mythes des Autochtones. Parce qu'ils voulaient implanter le mythe biblique, qui est un mythe aussi, mais c'est le mythe du colonisateur. Carol McBride insiste sur la perte que la colonisation a provoquée. À cause de la colonisation, nous avons définitivement perdu une partie de nos croyances et de nos traditions. Nous n'étions plus traités comme des leaders ou comme des décideurs. Nous n'étions même plus des êtres humains. Nous n'avions plus le droit de pratiquer nos rites pour protéger nos terres, dont l'eau. Nous ne pouvions plus enseigner les savoirs traditionnels. Pour Bernadette Rigal-Sellard, cette perte a pu être compensée grâce à des auteurs et autrices comme Basil Johnston dans une période de renaissance culturelle autochtone au Canada. Ces mythes ne se sont pas totalement perdus. De plus, le renouveau de la littérature dans les années 1960 a permis de cristalliser certains mythes de certaines Premières Nations. Ce qui est évidemment le contraire de la tradition orale, mais qui semblait une étape importante pour les Autochtones du Canada. Les mythes ne sont donc pas complètement perdus, mais ils sont dans une version un peu édulcorée. C'est la même chose dans toutes les cultures. L'évolution fait que nos mythes ne sont plus les mêmes qu'à une autre époque. Dans leur cas, il est certain que la colonisation a pu accélérer le processus d'éradication des mythes. Carol McBride soutient d'ailleurs que plusieurs initiatives au pays prennent place pour tenter de se réapproprier ces mythes. Nous devons prendre avantage du savoir qui existe encore au travers des aînés. Les écoles, qui se trouvent sur les réserves, devraient aussi pouvoir enseigner ce savoir. Je pense que ce n'est pas trop tard pour se réapproprier ces croyances, ces rites, qui ont pu être perdus. J'ai beaucoup d'espoir dans la prochaine génération qui arrive. C'était « L'eau comme mythe fondateur, mais dans l'ombre de la colonisation », un texte d'Ophélie Doirot, paru le 27 septembre 2023 dans La Liberté au Manitoba.
Les prix d'interprétation non genrés et l'apocalypse annoncée, une chronique de Samuel Larochelle, parue le 31 août 2023 dans le magazine Fugue. Le 17 septembre prochain, le Gala des prix Gémeaux remettra pour la première fois des prix d'interprétation sans distinction du genre. La nouvelle a fait grand bruit durant les derniers mois. À lire certaines chroniques et autres commentaires, on pourrait croire que le monde va s'écrouler sous le poids d'un lobby ultra-minoritaire et qu'on s'apprête à dépasser les limites de la décence. Non seulement je n'en crois rien, mais il m'apparaît clair que les catégories genrées n'auraient jamais dû exister. Selon Statistique Canada, seulement 0,14% des citoyens et citoyennes se définissent comme non-binaires. Admettons que l'une de ces personnes devienne une interprète de grand talent et qu'elle mérite une nomination pour sa performance dans une série ou un film. Que faire? L'ignorer? Lui offrir une nomination dans la catégorie correspondant au sexe qui lui a été attribué à la naissance, même si elle s'affiche ouvertement non-genrée? Et si la solution était simplement de ne pas classer les interprètes en fonction de leur genre? Plusieurs individus s'insurgent contre la volonté de changer une tradition pour des exceptions. À mes yeux, c'est plutôt l'occasion de réaliser que le concept est inutile depuis toujours. L'interprétation n'est pas un sport. Contrairement aux adeptes du 100 mètres, du tennis ou du hockey, qui doivent être séparés lors des compétitions en raison des capacités biologiques propres au genre, les interprètes utilisent leurs émotions, leur voix, leur âme et leur non-verbal pour donner vie à leur personnage. Cela n'a rien à voir avec le genre. En télé et au cinéma, personne n'a réclamé une division des genres dans les catégories de la meilleure réalisation, du meilleur scénario ou du meilleur montage. Est-ce parce que ce sont des métiers derrière la caméra, alors que les interprètes évoluent devant la lentille? Les esprits qui pensent ainsi n'ont-ils jamais réalisé que les prix soulignant l'excellence en animation télé n'ont jamais été genrés? Pourquoi ne montent-ils pas aux barricades pour exiger des catégories de meilleurs animateurs et meilleures animatrices? Est-ce parce que cela ferait doubler le nombre de trophées, étant donné que les prix en animation sont divisés en plusieurs créneaux, talk-shows et émissions de variété, émissions de sport, émissions de service, etc.? Mais alors, qu'en est-il de l'humour? Les apôtres des catégories genrées auraient dû faire résonner leur voix depuis des années en constatant que le gala des Oliviers n'a jamais genré ses récompenses. Au fond, les galas récompensant l'interprétation ne font que rattraper le gros bon sens. Les Grammys ont mis de côté la vision genrée en 2012. Les MTV Video Music Awards ont emboîté le pas 5 ans plus tard. La Berlinale décerne des trophées sans genre depuis 2021. Depuis, les Brit Awards, les Spirit Awards et les prix Écran canadien ont pris la même direction. Bref, quiconque parle d'une mode passagère se met le doigt dans l'œil. En réponse au brouhaha créé par l'annonce des catégories d'interprétation non genrée en décembre 2022, Maya Gour-Mercado, directrice générale de l'Académie des prix Gémeaux, affirmait ceci à la presse. C'est dans l'air du temps, mais je n'ai pas l'impression que c'est juste une mode. C'est une chose dont on parle depuis plusieurs années, vers laquelle on avance inexorablement. Maintenant, on souhaite que la disque se mette à jour en imitant les événements qui ont entrepris le virage. Questionnée à ce sujet, Julie Gardiépi, productrice exécutive des galas de la disque, a affirmé que la parité au sein de l'industrie musicale est encore bien fragile. Son argument fait écho à la crainte de plusieurs personnes qui voient les catégories non genrées comme une façon d'invisibiliser les femmes. À cela, on peut répondre que les galas au cinéma et à la télévision sont le dernier maillon d'une longue chaîne qui part de la création avant de passer par le financement, la production et la diffusion. Pour avoir des femmes en nomination, donnons-leur accès autant qu'aux hommes à des rôles substantiels qui leur permettront de nous éblouir et de récolter des distinctions lors des galas de récompense. Cela dit, ne nous cachons pas la tête sous le sable. Le milieu des arts est sexiste, tout comme la société. Aux Oscars, seules 3 femmes ont remporté le prix de la meilleure réalisation pour un long métrage. Chloé Zhao, Jane Campion et Catherine Bigelow. Bien sûr, on peut s'arrêter à la surreprésentation des hommes dans cette catégorie non genrée, mais on peut aussi aller plus loin et favoriser la diversité quand vient le temps de choisir qui réalisera quel film, tant pour les œuvres à petit et à grand budget. Si on veut faire un parallèle avec le monde de la musique, faisons jouer la musique des femmes dans les radios, engageons-les comme tête d'affiche des festivals et mettons-les en lumière autant qu'on le fait avec les hommes. Enfin, si vous affirmez que telle actrice et tel acteur mériteraient de gagner cette année, mais que le trophée non genré nous empêchera de célébrer les deux, dites-vous que tous ou toutes les finalistes des catégories genrées auraient aimé gagner également et que le public aura toujours des préférences, peu importe le genre, et des déceptions face aux choix finaux. C'était « Les prix d'interprétation non genrée et l'apocalypse annoncée », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 31 août 2023 dans le magazine Fugue.